Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien. Merci Billy Ivan Lutumba pour les informations. Merci de nous avoir informés. Eh bien, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler des villages, de la protection des villages contre les attaques des éléphants. Vous savez, les éléphants attaquent souvent certains villages de la RDC. Ces pachydermes, à la recherche des pâturages, ravagent les champs des maniocs, d'arachides, des cannes à sucre, des bananeraies et autres. Ces attaques sont fréquentes dans les villages des territoires de Bukama et Malembankoulou dans la province du Katanga. Par ailleurs, les éléphants et buffles apparaissent depuis le mois dernier dans certains villages du Kouilou. Ces animaux ravagent les champs et les étangs et empêchent les cultivateurs à se rendre paisiblement au champ. Et alors, pour sécuriser la population, le ministre provincial de l'Intérieur a donné l'ordre d'abattre ces bêtes, ces éléphants, voilà, et qui inquiètent, et les buffles également, qui inquiètent la population du côté du Kouilou. Alors, pour en savoir plus, nous avons en ligne le professeur Amundal Adrazo, expert en faune sauvage. Bonjour, professeur.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, d'après vous, qu'est-ce qui explique le fait que les animaux, ces éléphants et autres, quittent leur milieu pour envahir les villages?
Merci. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette excursion des animaux. Une des raisons, c'est que probablement les gens ont construit dans le corridor écologique et les animaux réalisent chaque année ou après chaque 2 ans des migrations. Et ces migrations sont vraiment importantes pour la survie de ces populations. La deuxième raison, c'est que probablement la capacité des charges écologiques au niveau de parc n'est plus à mesure de donner de ressources importantes pour ces animaux qui sont là-bas. Et donc il faut d'abord des études de fond pour savoir quel est le problème, savoir pourquoi les animaux quittent les lieux dans lesquels ils vivent normalement pour sortir dans l'autre milieu et alors causer des dégâts. Ça, c'est une des choses qu'il faut absolument remettre. Ce sont des questions qui existent, mais on peut trouver solution à ces genres de questions sans problème.
Voilà. Et cette transhumance, c'est quelque chose de naturel ou bien les animaux se déplacent à la recherche du pâturage?
Non, la migration, la transhumance des éléphants, par exemple, c'est quelque chose de naturel. Ça se passe comme ça dans tous les groupes zoologiques qui existent. Tous les groupes zoologiques qui existent, il y a des moments où ils font des migrations. Le but, c'est généralement d'aller rencontrer d'autres partenaires, vous voyez. Parce que chez les mammifères, de manière générale, lorsque les animaux de la même fratrie, n'est-ce pas, s'accouplent, il y a le taux de consanguinité qui accroît. Et donc les animaux, lorsqu'ils font ces genres de migrations, pour le but de rencontrer d'autres partenaires, c'est justement en vue de pouvoir réduire le taux de consanguinité qui du reste cause beaucoup qui élève le taux de mortalité, si vous voulez, chez les jeunes des mammifères. Mais donc ça c'est une des raisons, comme je l'ai dit, ça c'est de manière naturelle. On ne peut pas les empêcher, on ne peut pas bloquer ces corridors écologiques. Mais d'autre part, comme j'ai dit, peut-être qu'il n'y a plus assez de ressources au niveau des aires protégées où ils ont l'habitude de vivre, là c'est une autre question. Et donc là, ils sortent justement n'importe où pour aller trouver de la nourriture, manger et retourner. Vous voyez? Et donc il faut des études au préalable au niveau des parcs pour arriver à dire quelles sont les raisons qui poussent ces animaux à pouvoir quitter les parcs.
Bien, on va accueillir professeur Corneille Wango, écologiste. Bonjour professeur.
Bonjour monsieur Tati.
C'est plutôt jeudi à l'antenne.
Bonjour, je m'excuse, jeudi, bonjour.
Bonjour, bienvenue professeur. Alors, les bêtes, les pachydermes qui se déplacent, qui détruisent les champs, les étangs et autres, dans certains villages qui tuent même, et les villages c'est vide. Alors professeur, d'après vous, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette situation?
Merci bien, monsieur Jody. Je crois que la solution devient maintenant plus artificielle. Et comme l'a dit mon collègue Nikes Amundala, qui est zoologiste, oui, les populations locales doivent comprendre que ce ne sont pas les animaux qui les agressent, mais ils agressent les animaux. Comment? Comme l'a dit le professeur Amundala, ces animaux ont des couloirs. Quand on a créé les aires protégées, on ne les a pas créées au hasard. Les Belges, ils ont étudié bien l'écologie de ces animaux et leur espace vital. C'est comme ça que nous avons tous les aires protégées du Congo, les populations et même nous les intellectuels, nous devons bien le comprendre. Ces aires protégées sont créées et il y a eu des corridors. Ces corridors sont pour la migration des animaux pendant leur période de tri, pendant leur période de recherche, de migration pour la recherche de nourriture au nord soit au sud. Qu'est-ce qui se passe? Avec la recherche des terres, avec l'augmentation de la population, on est en train d'occuper les espaces de migration et on est en train d'empiéter l'espace vital de ces animaux qui se retrouvent sans abri. C'est comme nous les êtres humains, si nous n'avons plus un village, qu'est-ce que nous allons faire? Nous nous déversons dans un village voisin. C'est ça qu'ils doivent comprendre. L'animal comme l'éléphant, l'animal comme la baleine sont les animaux les plus intelligents des mammifères. En ce sens qu'ils peuvent s'orienter, faire des migrations de milliers de kilomètres. Et on dit ceci, l'éléphant passe et repasse dans ses traces. Donc, comme se fit leur couloir habituel, ils passeront et repasseront. Donc, les communautés doivent savoir qu'aussi longtemps qu'ils occupent, les éléphants passeront là, à leur moment de migration. La solution serait quoi? La solution maintenant devient peut-être le gouvernement. Il y a des solutions dans d'autres pays, par exemple à l'Afrique de l'Est. Le cas du Kenya, par exemple, et le cas même de l'Ouganda, même chez nous-mêmes au Congo. Nous avons dans le parc de Kausubiega, on a établi des clôtures électriques pour empêcher que ces animaux puissent sortir en dehors de l'espace qui leur est resté. Donc si, par exemple, on peut ériger des enclos électriques de sorte que quand l'animal vient, il touche, il est électrocuté, il rentre vers le côté qui lui est sans danger. Mmh. Alors on peut réussir à contenir ces animaux dans leur espace vital s'ils viennent dans un parc ou s'ils sont dans un site de conservation et ils peuvent rester là-bas, mais à condition qu'ils aient aussi de la nourriture en abondance. Sinon, oui, ils se reproduisent eux aussi. Et s'il n'y a pas de nourriture, eh ben, ils vont se déplacer toujours à la recherche de nourriture vers les zones où ils peuvent en trouver.
Bien, donc, professeur. D'accord. Voilà, professeur Drazo, vous avez suivi dans les Kouilou, par exemple, dans certains villages du Kouilou, les pachydermes ainsi que les buffles agressent les villageois. Alors l'administrateur, disons les ministres provinciaux de l'intérieur, a donné l'ordre qu'on puisse abattre ces animaux. Qu'est-ce que vous pensez de ces décisions? Professeur Drazo.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je dirais que ce sont les autorités de parc qui devaient décider. Ou alors, on veut faire la conservation ou on ne veut pas. Il faut choisir. Et donc, dans ce type de cas, je pense qu'on devait faire recours aux autorités, aux staff de parc, etc., pour savoir qu'est-ce qui se passe. On va ordonner qu'on puisse abattre, mais on sait combien déjà nous avons d'éléphants. Moi, je pense que ces genres de décisions devaient revenir plutôt aux autorités des parcs qui devaient faire des propositions, peut-être, au gouverneur ou qui pour dire voici, compte tenu de ce qui se passe, parce qu'il y a d'autres moyens de faire. On peut le refouler, on peut tirer à l'air. Vous savez que les animaux aiment la quiétude. On peut tirer à l'air et comme ça, ils peuvent retourner dans leur site d'hébergement comme toujours. Mais donc, je ne suis pas tout à fait d'accord que le gouverneur ou qui ordonne à ce qu'on puisse tuer ces animaux. Moi, je pense qu'on devait recourir, on devait faire recours justement aux autorités, aux staff des parcs qui savent un peu ce qui se passe. Parce que les tuer, ce n'est pas résoudre les problèmes. On va les tuer aujourd'hui, demain. Imaginez que les gens aient construit des villages sur le corridor écologique. On va les tuer demain, aujourd'hui. Demain, ils vont repasser par là. Donc, on finira par tuer toutes ces bêtes. Ce n'est pas ça la solution, à mon avis. La solution, on peut trouver autrement. Faire des études, savoir est-ce que ces animaux ont encore suffisamment de ressources dans les parcs où ils vivent. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Mais donc, pour moi, de manière urgente, on devait recourir aux éco-gardes, mettre des éco-gardes à ces endroits-là, de sorte que lorsque ces animaux-là viennent, on tire à l'air, on les refoule, voyez, on refoule ces animaux, ils retournent là où ils ont l'habitude de vivre, et alors on fait des études pour savoir quelles sont les solutions durables qu'on peut pouvoir porter à ces problèmes-là. Mais donc si on les tue, pour moi, il faut choisir. Si on veut faire la conservation de la nature, on les fait. Si on ne veut pas, alors ça se retourne. Or, notre pays, vous savez, on a dit qu'on va étendre les aires protégées jusqu'à 17% de l'étendue. Mais si la solution doit être comme ça, donnée par une autorité, tuée, etc. Mais ça sert à quoi? C'est parce qu'on ne peut pas vouloir une chose avec son contraire.
Bien, on va accueillir un auditeur, Sylvain Tshibangu, depuis Mweka. Bonjour Sylvain.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à la radio Okapi.
Quelle est votre question?
D'accord, merci beaucoup. Moi, je suis un peu touché avec le sujet du jour. Concernant la thématique d'aujourd'hui, moi, je préfère donner un peu une lumière par rapport au sujet. Je voudrais tout simplement interpeller la confiance de l'État congolais. Parce que actuellement, vous voyez, avec le sujet du jour, lorsqu'on dit les éléphants et autres animaux attaquent les gens, bon, de ma part, je trouve que ça devient encore une guerre des animaux. Mais de ma part, je préfère à ce que l'État prenne en compte et prenne aussi la charge des animaux. Des fois, je propose d'autres dispositions. Si l'État congolais trouve que le parc se retrouve maintenant au milieu des gens, il serait mieux de déplacer d'abord le parc là, que le parc soit un peu éloigné dehors, ailleurs. Et bon, j'ai vu d'écouter tout à l'heure les interventions de monsieur qui vient de parler, il dit qu'il serait mieux même de tuer. Non, de ma part, je trouve que ce n'est pas important de tuer les animaux. Par exemple, les éléphants là. Nous vivons dans une nature, c'est important de vivre encore avec les animaux et les hommes aussi. Il serait mieux, de ma part, de que l'État congolais prenne la disposition de prendre les animaux, soit d'éloigner les parcs, pour que les animaux vivent dans leur côté. Au lieu de laisser à chaque fois, vous voyez, les animaux attaquer les gens et manger des histoires, les nourritures, vous voyez, les nourritures, c'est toute une vie des hommes. Et lorsque les animaux entrent dans les nourritures des gens et ils mangent en dégradation, quel sera maintenant le sort de la population dans les parcs? En un mot,
il faut déplacer les parcs. Capable, oui.
Et prendre cette charge et qu'ils mettent toutes les batteries en charge pour que ces problèmes soient un peu
résolus. Résolu, bien entendu. Résolu. Merci Sylvain depuis Mweka. Professeur Corneille Ewango, vous avez suivi. Sylvain propose qu'on puisse déplacer les parcs si les villages s'y sont développés tout autour. Bon, il faut déplacer les parcs pour protéger la population. Quel est votre avis?
Merci bien, monsieur Jody. À Sylvain que je salue bien et je vais juste lui demander, est-ce qu'on peut lui déplacer lui de sa maison pour aller l'installer dans un océan? Non, ce n'est pas ça la solution. Et je crois que monsieur Sylvain, je m'excuse, il ne comprend pas le processus ou le principe de création des aires protégées. Ces aires protégées sont sélectionnées à cause des caractéristiques spécifiques et propres à chaque espèce. Donc, ce n'est pas dans tout le Congo qu'on a créé les aires protégées. Si on a créé les aires protégées, c'est en fonction d'une espèce phare. Ce sont les éléphants, ce sont les gorilles, ce sont les bonobos, ce sont les rhinos et ce sont les okapis qui caractérisent les aires protégées du Congo. Déplacer ces aires protégées, pour aller les mettre où? Il faut demander à M. Sylvain quel espace il va proposer qui aura les mêmes caractéristiques écologiques où on va placer, déplacer et transporter pour aller superposer. Non, ce n'est pas ça la solution. La solution est que les hommes qui occupent, nous chevauchons, ce sont nos voisins les animaux, ils doivent comprendre l'écologie de ces animaux et ne pas aller occuper les sites qui étaient dorénavant les corridors ou les abreuvoirs de ces animaux, car ils seront toujours dérangé si ce parc reste là. Donc, le parc ne peut pas être déplacé, M. Sylvain, parce que c'est l'habitat par préférence de ces animaux. Ce n'est pas pour rien que c'est seulement là-bas. Ce qu'il faut se poser, pourquoi c'est là-bas et pas ailleurs? Ce qui se passe, prenons un cas concret. Le parc de Upemba et de Kundelungu, ils sont entrecoupés maintenant par des fermes et par des carrés miniers. Est-ce que ces carrés miniers sortent de maintenant ou ils ont été depuis que le Congo existe? Mais pourquoi le Belge, quand il a occupé, il a colonisé le Congo, il a circonscrit cet espace pour qu'il soit un parc? Et aujourd'hui, vous trouvez que vous pouvez faire développer votre ferme. Est-ce qu'il n'y a que cet endroit-là idéal pour une ferme? Et vous allez dire maintenant que non, il faut déplacer, parce que moi j'ai ma ferme à Upemba, et déplacer le parc de Upemba. On va l'amener où il y aura encore un conflit entre les animaux et les hommes, ou les hommes et les hommes, parce que vous venez placer un parc là où ça n'existe pas. Déjà, les parcs, ils sont d'abord boudés par les communautés qui veulent même que tout le Congo, on annule tous les parcs, ce qui n'existera pas, heureusement. Mmh. Parce que nous devons les avoir, mais la solution est que, oui, quand il
faut
responsabiliser l'État congolais, oui, c'est normal. Il faut que l'État congolais prenne des mesures pour protéger ses animaux. Et comme je l'ai dit, il y a des cas dans d'autres pays, même en Amazonie, où on a construit des fences. Et il y a le parc de Virunga, parce qu'il y a eu les gorilles qui dérangeaient toujours, on a construit. Et les gorilles restent maintenant à l'intérieur du parc. Donc déplacer, non, ça ne peut pas se faire, parce qu'ils ne seront pas dans leur habitat habituel. Et puis il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace pour aller déplacer tout un parc et le créer encore et transporter tous ces animaux, non.
Bien, on va accueillir Kachai depuis Kanyuka. Bonjour.
Bonjour monsieur Jody Daniel Kachama et bonjour à monsieur les professeurs.
On vous écoute, Kachai.
Oui, merci beaucoup, monsieur Jody. Moi, je voulais demander à monsieur le professeur qu'il nous précise, entre les animaux et les personnes humaines, qu'est-ce qu'il faut protéger plus par rapport à l'autre? Parce qu'il dit qu'il faut aussi protéger les animaux. Maintenant, les animaux sont devenus une menace pour la population. Qu'est-ce que l'État congolais peut surtout protéger entre les animaux et les individus? Maintenant, ma question surtout était celle de savoir, monsieur Jody, nos parcs nationaux sont gérés soit par l'État ou soit par l'UNESCO. Ils relèvent de quel domaine? Ça, c'est la première question. La deuxième question, un engagement courant, une personne peut engager sa responsabilité civile pour n'avoir pas fait ce que quelqu'un d'autre en a fait, et lui engage sa responsabilité civile. C'est le cas des parents qui peuvent engager la responsabilité pour le fait de leurs enfants, les parents qui peuvent engager leur responsabilité pour le fait des animaux, les parents qui peuvent engager leur responsabilité pour le fait des choses inanimées. Maintenant, dans les cas sous examen, parce que les animaux des parcs ont endommagé les champs, par exemple, des populations riveraines, en tout cas, déranger tous les champs, ils attaquent la population. Dans ce cas ici, s'il s'agissait d'engager la responsabilité, est-ce l'État congolais qui allait dédommager ces populations-là, ou soit encore c'est l'UNESCO? Et si tel était aussi le cas, les éco-gardes de parcs sont payés, traités par l'UNESCO,
ou c'est par le gouvernement congolais. Merci beaucoup.
Je vais faire des précisions pour que dans ce sens-là, oui, nous puissions comprendre ce qui se fait. Parce que si la population commence à tuer les animaux, vous allez comprendre, l'État va commencer à incriminer ces gens-là qui ont tué des animaux. Il va dire, ce sont les animaux protégés. Oui. Vous ne pouvez pas vous permettre de les tuer ou de les chasser. Alors, je voulais avoir des précisions.
Merci.
Et les professeurs nous affirmons. Merci.
Bien. Professeur Drazo Amundala, à vous la parole.
Merci beaucoup. Je dois dire à mon ami Daniel que et les animaux et les hommes doivent tous être protégés de la même manière. Parce que nous ne pouvons pas vivre, nous les hommes, ne pouvons pas vivre sans les animaux. Ce n'est pas possible. Et donc, nous devons vivre ensemble. Mais s'il y a des conflits, on doit pouvoir gérer ces conflits-là. Et je dois dire que celui qui est à la base de ces conflits, c'est justement l'État. C'est l'État. Lorsque les gens commencent à construire dans le corridor écologique, mais les gouvernements, les autorités qui autorisent aujourd'hui qu'elles ont tué les animaux, ils étaient là. Ils sont en train de voir comment les gens sont en train de construire là-bas. Ils auraient dû agir en amont pour éviter toutes ces choses. Maintenant que c'est arrivé, on ne peut pas dire, comme l'autre collègue, l'autre monsieur qui avait posé la question, déplacer les animaux, mais où on va les mettre? Il n'est pas possible de pouvoir déplacer ces animaux. Et donc ici, c'est l'État qui doit pouvoir bien gérer les choses. Et d'ailleurs, moi, je me disais même qu'à un certain moment, on devrait être obligé de demander à tous ces villages de pouvoir quitter les lieux. Ça, c'est la mesure extrême.
Il faut déplacer les villages.
Ouais, ceux qui ont construit dans les couloirs écologiques. Mais c'est fini. On ne peut peut-être pas arriver à des mesures comme ça. Il faut alors mettre, comme j'ai dit au début, des éco-gardes qui vont pouvoir surveiller les mouvements de ces animaux. Probablement essayer de les pousser un peu pour qu'ils changent le corridor. Mais les corridors, on doit absolument les avoir. Absolument. Sinon, les animaux ne peuvent pas vivre. C'est comme réduire la taille des domaines vitales de nous, individus. Imaginez, vous vivez dans une chambre de 2 sur 4 mètres, etc. Mmh. Et du coup, on vous dit, vous devez vivre comme dans une prison. C'est pas possible. Donc, on doit pouvoir tuer ces animaux si on veut continuer dans ce sens-là. Mais quand on dit que c'est l'UNESCO qui doit pouvoir... non, c'est les gouvernements. C'est les gouvernements congolais. N'est-ce pas? Qui doit gérer toutes ces choses-là? Et l'UNESCO peut venir en appui, parce qu'il y a des patrimoines qu'on appelle patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UNESCO peut venir en appui, et ces patrimoines-là deviennent les patrimoines mondiaux, parce que ça aide le monde entier. Ça, l'importance de ces patrimoines tombe surtout sur le monde entier. Et donc ici, c'est le gouvernement qui, à mon avis, a fait des choses pas correctes, et alors ça le poursuit aujourd'hui. On doit pouvoir gérer ces choses correctement. Éviter de croire qu'on va pouvoir déplacer les animaux, c'est impossible. On ne va jamais déplacer les animaux pour leur donner notre site parce que les conditions écologiques où les animaux doivent vivre sont là où ils sont. On ne peut pas pouvoir les déplacer. Et donc, à mon avis, oui, à mon avis, il faut absolument que les gouvernements prennent ses responsabilités. Sous d'autres cieux, on a aidé, par exemple, pour que dans les villages qui sont proches des aires protégées, on a aidé les communautés à pouvoir clôturer leurs champs de manière à ce que même si les animaux quittaient à un moment donné le parc et qu'ils voudraient bien entrer dans les champs seront clôturés et à ce moment-là, ces animaux ne peuvent plus aller là-bas pour détruire les champs. On peut clôturer avec des fils électriques, etc. Donc il y a plusieurs possibilités de faire et donc c'est le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités. Parce que ces animaux parce que nous ne pouvons pas vivre ces animaux, on doit donc trouver des solutions pour que ces parcs soient bien conservés et que ces animaux restent là où ils ont l'habitude de vivre. J'ai dit au début qu'il faut des études en amont. Il faut que le gouvernement donne des moyens aux parcs de manière à ce que des études soient faites pour savoir est-ce que le nombre de pachydermes a augmenté, pour savoir est-ce qu'il y a encore des ressources nécessaires pour nourrir ces pachydermes. Si on voit par exemple que le nombre de pachydermes a augmenté, c'est l'autorité, c'est le staff de PAC qui doit pouvoir décider de tuer certains individus sur base de l'âge, etc., pour voir quels sont les individus qui ne sont plus productifs. C'est lui, sur base d'informations scientifiques qu'il détient au niveau des PAC, qui va pouvoir décider le nombre d'individus à tuer, etc. Mais il n'appartient pas à une autorité, je dirais, administrative, etc. Il dit, non, on tue les animaux sur base d'une étude faite pour savoir quels sont les animaux qui ne peuvent pour moi plus se reproduire, etc. Et ce sont ces animaux-là qu'on peut tuer sur base d'une étude bien faite. Voilà.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiokapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Vous êtes sur Radio Okapi, vous écoutez le magazine de la vie au quotidien. Okapi Service, comment protéger les villages contre les attaques des éléphants et des buffles? Maombi, Bindu Maombi nous appelle de Goma. Bonjour. Il n'est plus là. Bien, on va accueillir à présent, on va donner la parole au professeur Corneille Iwango, écologiste. Professeur, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour protéger la population? Sinon, si il y a eu des cas comme ça où les pachydermes ont envahi les villages, ont détruit ont ravagé les champs et même tué les êtres humains.
Merci bien, Monsieur Jody. Je crois que ici, c'est la responsabilité de l'État et de nous aussi, nous-mêmes les humains. C'est la façon de se représenter nous comme espèce et les espaces que nous occupons, nous sommes supposés occuper, et nous et les animaux. Quelqu'un a demandé entre l'homme et les animaux, qu'est-ce qu'on doit protéger le plus? Non, je dois lui répondre d'abord. Je dis, tout être vivant a droit à la vie de manière égale. Donc, il est humain, il est un être, il doit être protégé. Et il est protégé. Les pachydermes, les autres espèces, les buffles et quoi, ils sont des espèces et ils doivent être protégés. Ils ont droit à la vie. Nous nous protégeons tous et nous avons une responsabilité l'un à l'égard de l'autre. Et surtout, l'homme a une responsabilité de protéger les autres espèces. Ça, c'est de par la créativité. Et l'approche ici doit être complémentaire, c'est-à-dire quoi? Nous devons voir, nous, qu'est-ce qui est favorable à faire. Ce qui est favorable à faire, ce n'est pas de déplacer le parc, c'est comme l'a dit le frère, le confrère Amundala, c'est de déplacer le village, parce que si le village reste là, et que le parc aussi reste là, c'est que les villageois doivent comprendre qu'ils sont dans le corridor des animaux, ou soit ils ont empiété l'espace à l'intérieur du parc, et voilà pourquoi nos voisins leur visitent à tout moment. Donc, il faut les déplacer pour les protéger et on protégera à ce sens aussi les animaux. Et le frère qui a dit, est-ce que le parc appartient à l'UNESCO ou qu'on doit payer? Non, nous, Congolais, nous devons faire la part des choses, mes chers amis. Sinon, c'est une grande inquiétude que nous léguons aux jeunes générations. Le Congo, c'est un pays autonome et indépendant. Et il doit gérer ses ressources, et ces ressources sont les personnes, les terres et les ressources naturelles qu'il a. Mais le Congo a souscrit, comme tous les autres pays, à certaines conventions internationales, dont la Convention pour la conservation de la biodiversité. Les parcs nationaux ne sont pas qu'une invention congolaise. Nous avons plus de 2000 aires protégées au monde. Le conflit homme-animal n'est pas que dans le Congo. Donc, même en Amérique, même aux États-Unis. Donc, nous avons souscrit à des conventions que nous devons respecter. Mmh. Les éléphants sont des animaux totalement protégés, comme l'homme est totalement protégé. Je dois demander à ces confrères-là, est-ce qu'ils sont protégés par les droits de l'homme ou ils sont protégés par le gouvernement congolais? Et s'ils sont protégés par les droits de l'homme, qui a institué ces droits de l'homme? Ce n'est pas le gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais a fait quoi? Il a souscrit à la charte internationale du respect de la vie humaine. Et si nous avons les droits de l'homme, nos confrères, s'ils ne sont pas des biologistes comme nous, ils doivent comprendre qu'il y a aussi droit de protection de l'animal. Donc, s'il a un chien comme un animal de compagnie chez lui, ça erre quelque part et on le tue. Mmh. Il va aller se plaindre où? Il va aller se plaindre au droit de la protection de l'animal, comme aujourd'hui, en plus du droit de l'homme, il y a le droit de protection de la femme, il y a le droit de protection de l'enfant.
Pourquoi? Professeur, je vais lire rapidement la réaction. Il y a la réaction d'héritier depuis Kisangani, héritier Wamenga. Il nous a écrit sur Facebook. Il dit « La gestion de la faune en RDC est un véritable problème qui nécessite un engagement global de tout le monde. Est-ce que ces éléphants ne sont plus contrôlables? Nous n'avons plus de parcs où garder ces animaux. Il est important de multiplier les stratégies pour neutraliser ces bêtes qui risquent de pénaliser les activités agricoles des paysans. » Professeur Corneille.
Oui, voilà bien les termes qu'il utilise, neutraliser ces bêtes. Donc, c'est les éliminer totalement de leurs milliers. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas que ces animaux ne sont pas contrôlables. C'est comme je l'ai dit, les frères doivent comprendre qu'on est allé déranger ces animaux dans leur environnement. Quelqu'un qui vient te déranger dans ta maison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te défendre. Si un voleur entre dans ta maison, il veut voler et il veut te tuer, qu'est-ce que tu feras? C'est ce que nous avons fait de ces animaux là où ils vivent. Donc nous sommes prédateurs de leurs ressources et nous sommes prédateurs de leur espace. Donc, ce que nous devons faire, c'est, comme j'ai dit, une solution complémentaire, que l'homme comprenne comment il utilise l'espace, et les animaux s'y comprendront. Quand ils ont des ressources suffisantes et dans leur espace, et ils ont les routes de leur migration, ils ne vont pas nous déranger. Ça, nous devons nous forcer de les comprendre. Donc, ils sont contrôlables. Ils sont dans des zones, comme je l'ai dit, ces parcs ont été créés sur des limites définies et sur des normes, des critères bien définis, et jamais il n'y avait de problème depuis des années. Le plus vieux parc de l'Afrique, c'est le parc de Virunga, 23 ans, créé en 1923. Est-ce qu'on a eu des cas comme ça? Non, c'est quand nous avons commencé à empiéter leur espace. Donc, nous devons travailler, ça nécessite l'implication de tout le monde, c'est-à-dire quoi? Le gouvernement congolais qui est le garant de l'homme et de ses espaces et de ses animaux, qui contrôle toutes les ressources. Nous devons voir comment nous devons gérer cette situation et organiser l'espace, l'aménager. D'accord. Pour que chacun trouve sa part.
Bien, on va...
un aménagement suffisant.
Tout à fait, on va accueillir Patrick Mouderoua depuis Bukavu. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour, Jody.
Quelle est votre question par rapport à la protection des villages contre l'invasion des éléphants?
Ok, j'aimerais savoir s'il n'y a pas une loi qui régisse les pertes par rapport à la gestion des animaux, puisque ce n'est pas possible que des animaux soient une menace pour les hommes et pour leur culture. Mais aussi, quel est le vrai rôle des parcs? Car autant ils protègent les animaux, autant ils doivent aussi protéger les populations riveraines contre ces animaux féroces. Mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas de médicaments qu'on peut administrer à ces éléphants pour adoucir leur férocité? Et puis, en fait, est-ce qu'il n'y a pas moyen de délocaliser ces éléphants vers d'autres parcs non loin proches des habitations, afin d'éviter le pire? Merci.
Bien, Tamboé Kassongo nous a écrit depuis la ville de Beni, au Nord Kivu, sur Facebook. Il dit le problème des éléphants qui ravagent les produits des champs dans les villages n'est pas seulement au Katanga, mais aussi au Nord Kivu, précisément dans les territoires de Beni vers Rwenzori. Monsieur Jody, ces éléphants, au-delà des ravages des produits champêtres, il est étonnant que cet éléphant s'attaque aux hommes et a déjà fait un bilan d'au moins 4 morts. Selon les informations locales, cet éléphant, lorsqu'il sent l'odeur de la boisson communément appelée kasiksi, il poursuit cette odeur jusqu'à retrouver les hommes. Cela est dit suite à l'accroissement de nos agglomérations ainsi que les villages. Lorsque les choses commencent à être ainsi, ça devient trop dangereux pour la communauté. Aujourd'hui, le parc de Virunga est devenu une réserve mondiale, alors le monde ne peut pas se mobiliser et mettre les moyens ensemble en vue de construire un mur pour barrer la route à cet éléphant qui met en mal la communauté bénitienne. Professeur Drazo, vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dois tout de suite dire que le parc, on ne peut pas clôturer le parc. Ça, c'est déjà un problème. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans les zoos, dans les jardins zoologiques, on a tendance à faire plutôt ce qu'on appelle le game brushing. Ça signifie donner un espace aux animaux, même au niveau de zoos, pour que les animaux vivent comme s'ils étaient dans les milieux naturels. Parce qu'on a remarqué que les animaux qui sont dans les zoos, lorsqu'on les retourne en milieu naturel, ils perdent un peu leur destin et ils meurent le plus vite possible. Ils n'arrivent plus à s'adapter. Et donc, les parcs, les aires protégées doivent rester tels qu'ils sont. Parce que les animaux, c'est comme le prophète Ewango a dit, comme nous, les hommes, avons le droit de vivre, les animaux, les végétaux également ont le droit de vivre. Parce que c'est cette symbiose qui rend notre vie possible et agréable sur Terre. Et croire que les animaux n'ont pas le droit de vivre, comme le monsieur a dit, il faut leur donner des médicaments, etc. Mais pourquoi? C'est l'homme qui réfléchit et c'est l'homme qui doit pouvoir quitter les lieux où il est pour laisser l'espace aux animaux. Le vrai problème, c'est l'aménagement, les zonages des différents territoires. On doit pouvoir dire cet espace est destiné, par exemple, à l'agriculture. Cet espace est destiné à la construction des maisons, à l'urbanisation. L'autre espace est destiné à la conservation de la nature. Aujourd'hui, nous parlons de ce problème de changement climatique. N'est-ce pas? Tout le monde parle de changement climatique. Est-ce qu'on sait que les arbres et les animaux qui vivent en forêt, c'est eux qui donnent solution à ce problème de changement climatique? Si nous décidons aujourd'hui de les raser tous, demain nous allons encore nous plaindre que le changement climatique pose des problèmes, etc. Et donc l'homme doit pouvoir gérer correctement le milieu. L'espace doit être géré de manière durable. Et je reviens toujours pour dire que c'est l'État qui est à la base de cela. Je l'ai dit au début que le gouvernement congolais a souscrit pour étendre les aires protégées jusqu'à 17% du territoire congolais. Aujourd'hui, on a déjà signé. Ça signifie qu'on doit apprendre à pouvoir bien gérer l'espace et surtout conserver les animaux, mettre les animaux là où ils doivent être pour que nous puissions vivre en harmonie avec ces animaux-là. Et donc, penser qu'on va pouvoir déplacer les parcs, penser qu'on va pouvoir donner des médicaments, etc., pour neutraliser, tout comme les autres l'ont dit, ça c'est vraiment des choses qu'il faut oublier. Parce qu'à l'heure actuelle, nous devons vivre avec les animaux et alors essayer de gérer ces conflits-là. Nous avons dit qu'une manière d'empêcher que les animaux rentrent dans les champs, par exemple, de villageois, c'est de construire des barrières autour de leurs champs. Et les gouvernements peuvent soutenir ce genre de choses, de manière à ce que ces animaux, ces pachydermes, ne puissent pas rentrer dans les champs des gens. Mais une autre manière, c'est aussi engager un peu plus de éco-gardes pour essayer de surveiller le mouvement de ces animaux, et de sorte que lorsque les animaux veulent bouger pour entrer, ils peuvent tirer à l'air pour refouler ces animaux, de manière à ce que les habitants puissent continuer à vivre quand même de bonne manière. Je pense que ça, c'est une des solutions qu'on peut éventuellement proposer.
Et ça, il revient, c'est à l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, d'organiser cela.
Voilà, c'est ça. Et donc, l'ICCN doit avoir des moyens nécessaires auprès de l'État pour qu'ils puissent organiser ce genre de choses. Mais une des choses importantes, c'est réaliser des études dans ces aires protégées pour savoir qu'est-ce que nous avons encore. Est-ce qu'il y a encore des ressources nécessaires pour ces animaux qui vivent dans ces aires protégées? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nos aires protégées sont parfois occupées par des rebelles, etc. Probablement, il n'y a plus assez de ressources. Donc, comme on dit, la capacité des charges écologiques n'est plus assez importante dans les eaux. Donc, ce sont des études qu'il faut faire vraiment pour essayer de trouver une solution durable à ces questions.
Oui, il y a un auditeur qui nous a dit que là-bas, dans les territoires de Rwenzori, il y a une bière locale qui s'appelle Kasixi. Et si l'éléphant, vous avez cette bière, l'éléphant va vous rechercher jusqu'à vous retrouver. Professeur Corneille Wango, ça c'est très dangereux. Donc il y a des bières comme ça qui attirent les éléphants. Professeur Corneille Wango, vous avez la parole.
Le territoire de Rwenzori, je crois que ce qu'il y a avec notre frère, oui, on extrait cette bière, on la fabrique en forêt ou on doit la fabriquer dans les toits personnels. Oui. Je crois que c'est parce que les éléphants se nourrissent aussi des bananiers. Et ils sentent l'odeur non de la bière, mais de la banane qui est le produit de l'intrant dans la fabrication de cette bière. Mais si on la fabrique au village, je ne pense pas que l'éléphant va venir parce que juste il a senti l'odeur. C'est ça un peu. Mais si l'éléphant est de passage dans son champ et qu'il y a les caciques, parce que c'est un aliment, c'est comme un voleur qui va prédater et il trouve, ah bon, moi j'ai faim, mais il y a quelque chose ici, je peux le prendre. Est-ce que là, il faut blâmer l'animal qui était en passage et qui a trouvé quelque chose d'aliment, ou c'est l'homme qui n'a pas pris soin de protéger son produit? C'est ça aussi la part des choses. C'est comme vous êtes dans votre parcelle, vous laissez les effets dehors, vous vous dormez et...
Oui, professeur. Voilà, il y a coupure.
Ce n'est pas que nous défendons nos animaux, mais nous voudrions que chacun comprenne qu'il y a une responsabilité. Cette responsabilité ne serait pas trop partagée parce que les animaux n'ont pas une intelligence réfléchie comme nous les hommes. C'est nous les hommes qui réfléchissons et qui doivent trouver des moyens comment nous devons cohabiter avec ces animaux-là.
Professeur Corneille, mais il semble que... une solution. Professeur, il semble que les éléphants sont aussi intelligents.
Oui, je l'ai dit en entrant que parmi les animaux, les mammifères les plus intelligents, ce sont les éléphants parce que pendant des millénaires, l'éléphant passera et il repasse toujours dans son territoire, dans son couloir de passage. Et c'est ça que nous avons dit, le professeur Nikes l'a dit, et moi je l'ai dit plusieurs fois, que si vous construisez dans le couloir de passage de ces animaux, ils vous visiteront chaque année parce qu'ils sont intelligents. Mais ils ont une intelligence de repère. Mais nous avons une intelligence de résoudre. C'est ça qui nous différencie des autres animaux. Nous sommes un animal nanti de l'intelligence pour résoudre le problème, pour réfléchir. Mais les autres animaux-là, ils ne réfléchissent pas. Même l'insecte,
est intelligent parce qu'il sait retrouver ses pas, il doit manger et il migre aussi. C'est ça l'intelligence de l'insecte. Mais nous, nous sommes différents parce que nous devons trouver des solutions. La solution à trouver dans ces problèmes, c'est de chercher comment éviter ces conflits et c'est l'homme qui devra chercher à éviter ça. Alors l'homme, c'est la responsabilité de l'État congolais de travailler avec ces communautés riveraines pour les déplacer, les mettre à l'abri. Si vous êtes en insécurité, ce qu'on fait, c'est quoi? On vous met à l'abri. Mais nous insistons, nous le disons, ce n'est pas pour protéger les animaux. On ne va pas déplacer tout un parc, mes frères. On ne va pas aller cueillir tous les animaux dans un parc et les mettre dans un zoo, non. Mais ce que l'on peut faire, la solution la plus simple, c'est de déplacer ce village-là pour leur trouver un autre endroit propice et ils peuvent continuer leur vie. Et les animaux continueront aussi leur vie là où ils sont parce que c'est leur habitat de préférence. C'est bien. Ça la solution que nous pouvons faire comprendre à nos frères. Que nous avons une responsabilité de protéger ces animaux. Sans ces animaux, il n'y aura pas de viande de brousse que nous apprécions. Sans ces animaux, il n'y aura pas aussi certaines nourritures que nous apprécions. Nous ne les aurons pas. Ces animaux jouent un rôle écologique complémentaire comme nous les jouons dans la nature.
Bien, Gabriel nous a écrit sur Facebook depuis Bokungu, dans la province de la Tchouapa. Il nous dit, que les éléphants sont particulièrement friands des cultures de plein champ, comme le maïs et le manioc. Est-ce que ces pachydermes se nourrissent de ces produits-là, professeur Corneille?
Merci bien, monsieur Jody. C'est parce que les frères, peut-être, ils ne comprennent pas l'écologie de ces animaux. Et ils doivent se demander à quand, quelle période de l'année, ces animaux attaquent les cultures. L'éléphant, par exemple, il vit entre deux modes de vie. Pendant la saison sèche, il doit avoir aussi, il a besoin de l'eau. Il va vivre le plus le long des cours d'eau parce qu'il doit s'abreuver. Et quand il n'y a pas d'eau, pendant la saison sèche, ce qu'il va faire, c'est à la recherche de certains endroits qui sont propices. Maintenant, c'est le début, par exemple, nous sommes ici, moi je suis à Kisangani au nord, c'est le début de la saison, de la petite saison des pluies, et vous remarquerez que les arbres commencent à donner des jeunes feuilles, des feuilles tendres, et ainsi de suite, et tous les autres aliments aussi, comme dans les cultures, ce sont des jeunes feuilles, et peut-être des jeunes petits de maïs, et ainsi de suite. Et quand ces animaux sont à la recherche de nourriture, ils quittent maintenant la forêt où il n'y a pas de fruits, ils vont devenir plus herbivores. Et quand ils vont retrouver un champ, même un jeune champ, avec des maniocs, avec des maïs, avec des bananiers, ils vont les ravager parce que c'est comme, on a souffert 2 mois de famine et voilà, il y a une abondance ici. Alors, ils vont ravager. Ce n'est pas qu'ils prisent, c'est le massa, mais c'est dans leur régime alimentaire. Nous qui étudions ça, j'ai passé une bonne partie de la vie à étudier le régime alimentaire de l'éléphant. C'est comme ça, même en forêt, quand il n'y a plus de fruits, il va écorcher certains arbres où il trouve un peu de matière nutritive, mais surtout de l'eau aussi. Et quand il n'y a plus de fruits en forêt, il sort vers les espaces assez ouverts où il peut trouver les jeunes feuilles tendres et ça correspond à ces saisons de l'année, petite saison sèche, grande saison sèche et petite saison de pluie et grande saison de pluie qui correspondent aussi à la recherche de nourriture pour ces animaux. Comme nous les hommes aussi, nous cherchons la nourriture, nous faisons la chasse ou la pêche en fonction des saisons culturales et des saisons de l'année, où on peut avoir disponibilité des ressources. Et aussi, ils le font de cette manière-là.
Voilà, ils le font aussi de cette manière-là. Merci beaucoup, professeur Corneille Ouango. Je rappelle que vous êtes écologiste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et à la prochaine.
Merci bien, monsieur Jody. Et merci à tous mes frères et tous les auditeurs qui ont intervenu pour leurs questions. Et nous leur souhaitons en tout cas bonne fête de Pâques.
Bien, merci. Alors, il y a un auditeur qui nous écrit, il dit, moi je dirais que les villageois doivent vider catégoriquement les lieux, sinon un jour on aura des dégâts importants. Professeur Drazo.
Oui, je suis de l'avis, hein. Je suis de l'avis. Il faut que le gouvernement essaie de prendre ses responsabilités de manière à délocaliser ces gens-là. Parce que comme nous l'avons dit, les éléphants, c'est là leur couloir, c'est là les corridors pour eux. Ils ne doivent que passer par là. Comme l'homme réfléchit, comme on peut facilement délocaliser les villages, c'est plus facile de les faire maintenant. En tout cas, les villages qui sont construits dans les corridors,
Je crois que c'est vraiment important de pouvoir les déplacer avant qu'il ne soit tard. Peut-être que maintenant, ces villages sont encore tout petits, avec peu de gens. C'est donc plus facile de les gérer maintenant que d'attendre. Parce que si on ne déplace pas, à moins qu'ils nous disent, bon, en RDC, il n'y a plus de conservation de la nature, on va tuer tous les éléphants, comme préconisait, je crois, un des chefs là-bas. Si on arrive à faire ça, ce sera autre chose. Et ce sera alors une décision vraiment inutile, à mon avis. Et donc maintenant, il faut essayer de pouvoir délocaliser ces gens-là. Probablement, ce sont des villages encore pas trop grands, dans les Katanga et peut-être ailleurs. Ce ne sont pas des villages trop grands. On peut essayer de les délocaliser. Mais en attendant, c'est comme j'ai dit, on peut mettre le long des villages ou à côté des villages un nombre relativement important des éco-gardes. Mmh. Pour que ces éco-gardes-là essayent de refouler les animaux chaque fois qu'ils viennent. Et si les animaux viennent, on doit savoir c'est pour la recherche de nourriture ou c'est pour la transhumance. Parce qu'il faut faire la différence. Il faut vraiment faire la différence. Si c'est pour la recherche de nourriture, c'est donc pour un temps, ils viennent, ils cherchent la nourriture et ils retournent. Mais si c'est pour la transhumance, ça signifie qu'ils doivent passer et puis retourner. Et le passage, même s'il ne ravage pas les cultures, le fait que les éléphants passent, leurs pattes, etc. Ils cassent les choses, ils peuvent casser des maisons. Ça, c'est déjà un problème. Donc, je pense qu'il y a moyen que l'on puisse résoudre ces problèmes de manière durable. Et donc, les études dans les aires protégées sont très importantes. Parce qu'avec ça, on connaît la dynamique des populations de tous ces pachydermes, les nombres à peu près de tous ces pachydermes. Et à ce moment-là, on peut très facilement les gérer.
Bien. Professeur Drazo Amundala, je rappelle que vous êtes expert en faune sauvage. Merci d'avoir participé à cette émission et excellente journée.
Merci à vous, merci à tous les autres collègues, merci au collègue Cornet, que je connais bien, que je salue en passant. Merci également à tous nos auditeurs qui nous ont posé des questions. Merci à vous.